Je vous encourage à prendre vos Bibles, format papier, smartphone. Il y a quelques exemplaires à l'arrière pour avoir le texte du jour sous les yeux. Actes, cette portion de la Bible qui nous raconte les premières années du développement de l'Église après le départ de Jésus-Christ. Une période où l'Évangile, la parole de Dieu se répand depuis Jérusalem et qui rayonne de plus en plus autour de la région. Dans la région, la Judée, la Samarie, on avait vu tout cela, ce développement de l'Évangile. Différentes personnes avaient été touchées, interpellées par le message. Parfois de grandes foules, parfois une personne, des épisodes beaucoup plus individuels. Et en regardant de plus près, on avait vu cette intervention, cette action quelque part souveraine, minutieuse de Dieu qui avait conduit ce développement, cette expansion, cette croissance de l'Église. Alors ceux qui étaient là dimanche dernier seront favorisés ce matin parce qu'on est arrivé à une grande étape de la vie de l'Église, le tournant de ce mouvement de croissance. Quelque part une foi chrétienne qui va prendre le large. Les païens sont touchés. Les non-juifs ont accès à l'Évangile. Quelle étape énorme, quelle étape importante. Et on avait vu dimanche dernier que Dieu était intervenu de façon minutieuse pour préparer cette rencontre entre deux mondes, les juifs et les non-juifs. Il avait conduit l'apôtre Pierre et ses hommes païens, notamment la personne de Corneille, un chef romain, un responsable, un occupant. De juifs, mais un homme pieux, reconnu pour une foi, respecté des juifs. Un homme qui demandait à Dieu de lui montrer le chemin du salut. On avait vu que ces deux mondes, dimanche dernier, se sont rencontrés. On était au chapitre 10. Quelque part, deux mondes où tout séparait. Il n'y avait rien en commun. Culturellement, socialement, tout les séparait. Mais cet homme, Corneille, son entourage ont saisi le salut. Le pardon offert par Christ les a touchés. Et Pierre s'y est rendu compte. Pierre a été interpellé, il a été conduit. Et on arrive à ce chapitre 11 de ce matin, et je vous propose de lire les premiers versets du chapitre 11, les 18 premiers versets. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais. » Lorsqu'en extase, j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant, avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur !» car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois du ciel, la voix reprit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Je propose simplement de faire quelques minutes de silence et je vais peut-être prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as désiré que nous puissions avoir cette histoire qui nous a été racontée pour nous encourager, pour nous stimuler, pour peut-être nous reprendre. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Seigneur, place tes mots dans ma bouche. Interpelle nos cœurs. Nous te prions cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est vrai que ceux qui avaient le privilège d'être présents dimanche dernier, vous avez de suite remarqué que la grande partie de ce qu'on vient de lire, on l'avait déjà dans le chapitre 10. C'est du déjà vu, du déjà raconté. Le salut, la bonne nouvelle, l'évangile qui vient d'atteindre un homme, Corneille, qui vient d'atteindre sa famille, ses proches. Cette nouvelle, cette famille qui est touchée quelque part est tellement importante pour cette première communauté chrétienne que Luc, l'auteur du livre des Actes, inspiré, nous rapporte de nouveau ce récit. Une telle répétition dans un même livre de même fait sont rares. C'est très inhabituel. C'est quelque chose d'important qui vient de se passer. Quelque part, le fait de répéter entre le chapitre 10 et le chapitre 11 un certain nombre de détails nous montre que c'est un événement extraordinaire pour l'époque. L'œuvre de Christ ne se limite plus à quelques juifs, à quelques illuminés. Ce n'est pas juste une secte du judaïsme, comme il y en a de nombreuses à l'époque. Non, on est à un point crucial dans le déroulement du plan de salut que Dieu a voulu. Et par rapport à ce texte, on considère qu'entre la Pentecôte que Pierre a vécue après le départ de Jésus-Christ, qui s'est passé quelques jours après le départ de Jésus, la Pentecôte des chrétiens, il s'est passé pratiquement 7 ans. On a quelques chapitres, mais 7 à 10 ans avant que l'Évangile, avant que Pierre, avant que les disciples se rendent compte quelque part d'aller interpeller des païens. Des païens qui ne sont pas au loin. Hein. Césarée, c'était à 100 kilomètres. La ville de Césarée, à 100 kilomètres de Jérusalem. Mais c'était le temps de Dieu. Et quelque part, Luc, veut nous rappeler une leçon encore dans ce texte. Dieu ouvre l'évangile aux nations. Et c'est quelque chose d'important. Dieu ouvre l'évangile aux nations. Et dimanche dernier, on avait vu que Dieu avait dû intervenir dans le cœur de Pierre, qui était un peu dur peut-être, qui était un peu fermé, pour que Pierre puisse imaginer d'aller se rendre chez Corneille, chez un païen. C'était tout un monde. Alors parcourons ce texte qui quelque part nous rappelle la même chose vu la semaine dernière. Et on voit d'une part que le texte commence avec quelque part un constat, et un constat qui entraîne une contestation. Pierre, comment as-tu pu en arriver là ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? La nouvelle de ce qui s'est passé chez Corneille parvient aux oreilles des apôtres, des autres apôtres et des chrétiens d'origine juive qui sont à Jérusalem. Avant que Pierre ne soit de retour, ils apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Les nouvelles vont vite, surtout quand ça déplaît. Pour les croyants de cette ville, l'idée que des étrangers, que des païens soient baptisés, soient admis dans l'Église, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est inconcevable. Et quand Pierre rejoint l'Église de Jérusalem, on imagine que les discussions devaient déjà peut-être bouillonner depuis quelques jours, parce que certains insistaient sur la nécessité d'observer certaines lois issues du judaïsme, les lois de Moïse, des traditions dans lesquelles ils ont grandi. Ils étaient zélés pour la loi, pour les coutumes. Il faut se rappeler que le temple, il est encore en place et que les chrétiens, ils s'y retrouvaient au temple. Reconnaître que Jésus était le Messie, leur Seigneur, est une chose, mais accepter qu'il soit également le Sauveur et le Seigneur des païens, des Romains, des occupants, c'est toute une histoire, c'est une autre histoire. Et Pierre est du coup pris à partie, verset 2. Et le terme utilisé provient vraiment du sens de juger. Il le prit à partie. Il y a l'idée d'établir des distinctions. On lui adresse des reproches, selon certaines traductions. On lui tire les oreilles. Mais comment, Pierre, as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu entrer et manger avec eux? Les barrières entre juifs et non-juifs doivent être maintenues. Entre juifs et romains, ça doit être maintenu. Pierre est clairement accusé d'être entré chez un païen et d'avoir pris un repas avec lui en plus et d'avoir partagé un temps avec eux. Alors c'est vrai, on n'a qu'une phrase qui est restituée, mais je pense qu'ils ont dû dire un certain nombre de choses. Quelque part, déjà là, je trouve, j'ai été interpellé parce qu'on n'hésite pas à reprendre Pierre. Il est disponible, quelque part. S'il est prêt, on lui reproche des choses. Pierre, l'apôtre, un des 12. Enfin, Pierre, c'est pas n'importe qui. Un pilier, une colonne de l'Église naissante. Mais il est prêt à écouter. Il est disponible. Et on voit que Pierre ne se cache pas derrière sa position. Quelque part, on le voit dans le texte, il ne déroule pas un enseignement, pam, 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 voilà, c'est comme ça parce que... Non. Il ne se lance pas non plus dans un discours pour dire « Mais regardez comme vous êtes remplis de préjugés !» Qu'est-ce que fait Pierre ? Il explique simplement, il se contente de raconter ce qui vient d'arriver, la manière dont les choses se sont déroulées. Cet événement est important dans l'histoire de l'Église. Et Luc nous le rappelle dans ces versets. Et de 4 à 18, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le chapitre 10. Mais c'est important, c'est un cheminement et c'est peut-être le deuxième aspect de ce... Il y a les piles qui sortent, ah oui, ça ne peut pas marcher. Un cheminement, c'est l'œuvre de Dieu. Pierre, il est en train de dire « Ce n'est pas moi, c'est Dieu !» Pierre présente dans les versets 4 à 16 ce qu'il a vécu. Il se mit à leur faire un exposé suivi, dans l'ordre. Il présente son cheminement pour en être arrivé là. Les éléments qui l'ont conduit à se rendre chez cet officier romain, chez Corneille, ce n'est pas du tout une trouvaille de lui. C'est pas moi. Ça vient pas de moi. C'est pas pour moi qui d'un coup dit il faut que j'aille voir Corneille, il faut que l'Église s'agrandisse et que les nations entendent l'Évangile. Et on voit dans la manière dont Pierre nous relate les événements qu'il y a la main de Dieu du début à la fin. D'une part parce qu'il accorde, il marche pas très bien. Bon, tu peux mettre le point suivant. Parce que Dieu accorde une vision. Pierre se contente de raconter les événements tels qu'il les a vécus. Et c'est par une vision qu'il a été préparé, qu'il a été conduit à cette rencontre. Une intervention de Dieu qui l'a interpellé, qui l'a bousculé. Il nous décrit cette vision, il l'a redécrit, il l'avait déjà dit au chapitre 10. Une nappe qui descend alors qu'il était en train de méditer, de prier sur le toit de la maison alors qu'il attendait le repas. Une nappe qui descend remplie d'animaux impurs. Et cette voix qui vient du ciel. « Pierre, lève-toi, mange, tue. » Mais il répond « Non Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans sa bouche. » Ces règles alimentaires qu'on est en train de lui reprocher, cette distinction pure-impure, je les ai faites, je suis carré là-dessus, je n'avais aucune intention de me rendre chez Corneille. On l'avait évoqué dimanche dernier, Pierre était rempli de préjugés. Il avait son cadre juif, il n'arrivait pas à imaginer que le salut allait toucher les nations. Il n'imaginait pas cette grande mission autour de lui, ces peuples étrangers. C'était improbable pour Pierre d'aller imaginer de rentrer chez un officier romain. Ça ne vient pas de son initiative. Et cette voix qui lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Waouh. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cette scène, il a vécu trois fois. Alors mettez-vous dans la tête de Pierre. Pierre, il a vécu plusieurs choses trois fois. Trois fois, on lui a dit « Tu vas me renier ?» Trois fois, Jésus, avant de partir, il dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Trois fois, il dit « Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. » Sacré clin d'œil de Dieu qui doit l'interpeller. Dieu a travaillé son cœur en profondeur pour que son cadre juif puisse voir plus large. Et Pierre nous dit « Aussitôt, vous avez vu le texte, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée se sont présentés là où je logeais. » Dieu ne l'a pas simplement interpellé par une vision, Dieu témoigne par le Saint-Esprit. Versets 12 et 15, le Saint-Esprit intervient. « Pars avec ces personnes qui se présentent devant toi, pars sans hésiter. » Dieu est à la manœuvre, et quel timing! Le Saint-Esprit conduit cette rencontre. Le texte nous dit aussi que Pierre, il n'est pas parti tout seul, il a emmené six frères qui l'ont accompagné. Il n'a pas agi seul. Plusieurs ont vécu ces événements et peuvent être témoins de ces choses-là. Non seulement le Saint-Esprit l'encourage à suivre ces hommes et partir à Césarée, donc faire 50 kilomètres, et ils l'ont fait en un jour et demi, mais on voit aussi que c'est le Saint-Esprit, quelque part, qui a interrompu lorsqu'il était face à Corneille et qu'il était en train de leur parler. On voit que Corneille a été interpellé par un ange pour aller chercher Pierre. Verset 15, on lit « Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. » Lorsque je me mis à parler, Dieu était en train d'intervenir. Et quelque part, il était totalement, ça apparaît pas ici dans le texte, mais il était étonné de ce qui arrive. On le voit dans le chapitre 10, mais comment c'est possible? Le Saint-Esprit descendit sur eux comme il avait fait au commencement sur nous aussi. Comme sur nous au début, Pierre est en train de vivre avec Corneille, avec cette famille, avec ses amis qui sont autour de Corneille, une deuxième Pentecôte extraordinaire. Pierre est obligé de remonter dans les souvenirs et de se dire « Mais c'est il y a 7 ans, il y a 10 ans, on a vécu la même chose, ce qui est en train de se passer là. » C'est tellement incroyable. C'est de cette ampleur-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Dieu veut nous dire quelque chose. Et on voit aussi au verset 16 que Dieu témoigne par sa parole. C'est alors qu'une parole du Seigneur lui est revenue quand il vivait ces choses. Je relis verset 16. « Alors je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Pierre cite les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qu'on a vues en acte 1. Un peu avant de partir, Jésus a dit ça à ses disciples. Il les a enseignés. Et là, Pierre est en train de dire ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu avec Corneille, ce que j'ai vécu dans cette maison, c'est ce que Dieu nous avait dit. Ça commence, les puzzles se mettent en place dans la tête de Pierre. Ce qui vient de se passer s'accorde avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs nous a dit depuis le début. Et quelque part, j'imagine bien dans la tête de Pierre que tout doucement les puzzles se mettent en place. Probablement qu'il doit se rappeler tout ce qu'il a déjà vécu avec Jésus du temps de son ministère, parce que Jésus a fait déjà des choses extraordinaires, des choses qui dénotaient, qui montraient qu'en fait il était loin du cadre juif. Jésus s'est adressé à des prostituées, Jésus a touché des lépreux, Jésus a mangé avec des pharisiens, a mangé avec des collecteurs d'impôts, enfin il s'est rendu en Samarie, il a surpris déjà Jésus. Mais pourtant ça passe suffit à ce que Pierre, depuis 7 ans. Mais c'est clairement l'œuvre de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était le timing de Dieu. Dieu a suscité ses signes. Dieu a suscité la venue du Saint-Esprit. Dieu a suscité d'être interpellé. Dieu a suscité cette rencontre. Il a travaillé Corneille. Il a travaillé Pierre. Ce n'est pas ma stratégie. Ce n'est pas moi qui me suis rendu de ma propre initiative. C'est Dieu Je ne suis qu'un instrument entre les mains. Quelque part un instrument inutile, parce que quelque part j'y serais allé à reculons. Même quand il est arrivé chez Corneille, il a dit « Tu sais Corneille, je ne devrais pas venir chez toi. Tout ce qu'on m'a appris, toutes mes traditions m'empêchaient de me rendre chez toi. » Et quelque part, il y a un résultat, et on le voit, c'est le troisième point, la gloire de Dieu. Comment alors m'opposer ? Comment s'opposer de les baptiser ? Comment s'opposer à ce que le salut puisse être partagé avec des païens ? Ce n'était pas ma stratégie, c'était la stratégie de Dieu. Je vous relis le verset 17. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Qui suis-je, moi ? Ce salut qui se répand, ce salut qui touche les païens, ce salut qui touche ceux qui sont occupants dans notre pays, c'est l'œuvre de Dieu, c'est son don, c'est sa grâce. Plus tard, il dira, et je vous propose de lire, si vous avez encore votre Bible, au chapitre 15, où il va nouveau refaire un peu un topo, verset 7, à partir du verset 7 à 9. « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. C'est Dieu! Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Nous ne pouvons nier ce qui vient d'arriver. » Waouh ! Qui suis-je pour dire ? Le salut touche les païens, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a maintenant des disciples de Jésus parmi les païens. Alors c'est vrai, pour nous, on a du mal à imaginer ces frontières, ces distinctions entre juifs et non-juifs. Mais c'était tellement important que Luc est obligé de l'écrire deux fois. C'est quelque chose d'important qui se passe. Dieu, et on l'a vu dimanche dernier, Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu ne fait pas de considération de personne. Acte 10, verset 34. Pierre avait dit, acte 10, 36, Jésus est le Seigneur de tous. Verset 43, toujours du chapitre 10, il avait dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom, le nom de Jésus-Christ bien sûr, le pardon des péchés. L'offre de l'Évangile est universelle. C'est pour chacun. Waouh ! Ce n'est pas à moi de dire lui non. Ce n'est pas à moi de dire que lui est impur, lui est pur. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à moi de dire qui est digne de recevoir l'Évangile, de qui ne l'est pas. Quelque part, c'est Dieu qui en détient les clés. Quelque part, on pourrait dire suite à ce rapport, mais qui veut contester avec Dieu ? Vous contestez moi, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est incontestable. Et à suite à cette conclusion, à ce récit de ce qui vient de se passer, la manière dont ça s'est déroulé, verset 18, hein, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. » Donc ils se calmèrent, donc ça veut dire que c'était peut-être excité avant, et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Waouh ! Ceux qui étaient d'un avis différent, contraire, ont retiré leur accusation. Ils n'avaient plus rien à dire. Et louèrent Dieu. Ils louèrent Dieu de ce que Dieu avait manifesté clairement sa volonté en ce qui concerne le salut. Quelque part, ce consensus, cette paix qui se retrouve là dans cette église de Jérusalem, c'est pas à contre-cœur. Ils sont en train de voir, ouais, c'est Dieu qui a l'œuvre. Les accusateurs se transforment en adorateurs. Cette question a été réglée. Et quelque part, même si cette vérité, qui est quelque part extraordinaire, va encore nécessiter pas mal de cheminement dans la vie de ces juifs, on verra hein, dans la suite d'actes quand on reprendra un jour cette série, ça a mis du temps encore. Ça a mis parfois du temps. Des fois, on est encore en train de... On tient à ce qu'on maîtrise. Y compris pour Pierre. Mais cette vérité, cette leçon qui vient d'avoir lieu, que Dieu vient de leur montrer, le salut, l'Évangile est ouvert aux nations, à quiconque, commence à faire partie de leur conception. Ça commence à faire leur chemin et ils arrivent à concevoir. Vous serez mes témoins. Et là, je vous rappelle Acte 1.8. Hein. Vous serez revêtis d'une puissance, vous serez mes témoins à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'ils ont pensé extrémités de la terre, les Juifs ? Ici, c'est une des confessions les plus stupéfiantes, quelque part, pour des Juifs. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Ils comprennent ce que Dieu est en train de faire. En tant que chrétiens, hébreux, juifs, ils vont pouvoir avoir cette liberté d'aller partager l'évangile vers les païens. Et ils rendent gloire. Et quand vous regardez ce qui les met dans la joie, ce n'est pas les signes qui sont apparus. Ce n'est pas la manière dont Dieu a déroulé. Mais c'est que la repentance aussi, le salut a touché. Ils glorifient Dieu parce que le salut, c'est quelque chose qui les émerveille. Le salut, l'œuvre du pardon avec notre Créateur est capable de toucher des païens. Des gens qui avaient aucune vie avec Dieu, quelque part, même si Corneille avait déjà un cheminement personnel. L'évangile est offert. Une joie qui est ancrée dans le salut. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a été donné simplement, c'est parce qu'il y a le salut, il y a des frères et sœurs, il y a des gens qui partageront la même foi parmi les païens. Jésus dira ça dans Luc 10, verset 20, justement, ça rejoint. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. » Ils se réjouissent de quoi ? D'avoir des frères et sœurs parmi les Romains. Et vous allez le voir dimanche prochain. L'église de Jérusalem, quelque part, va être prête à partir. Et dans la suite du chapitre 11, c'est l'église d'Antioche qui va naître. Et quelque part, dans cette affirmation qu'ils sont en train de vivre, la repentance a été accordée aux païens. C'est le déclic. C'est un événement unique dans l'histoire du salut vis-à-vis du monde. C'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'est Dieu qui a donné ces différentes étapes. C'est Dieu qui a permis d'abord les disciples, d'abord Jérusalem, puis après autour, puis après la Samarie, après encore un Éthiopien, puis Corneille. C'est Dieu qui a l'œuvre. Waouh. C'était le temps de Dieu pour démolir les murs des préjugés qui étaient érigés depuis fort longtemps entre les peuples. Quelque part ici, Dieu est en train de leur donner une leçon. Alors que faisons-nous de cet événement ? C'est pas si anodin, c'est un événement unique dans l'histoire, qui est révolutionnaire. On sort des sentiers battus pour les Juifs. Une nouveauté qui perturbe, qui a perturbé l'Église. Mais on voit que Pierre, avec sagesse, a pu trouver les mots d'expliquer simplement ce qui venait de s'arriver. Il a expliqué point par point. Il a été écouté. Et les gens n'ont pu que reconnaître que c'était Jésus, c'était Dieu à la manœuvre. On est témoin de ce que Dieu a réalisé. Alors quelque part, suite à ce texte, je disais tout à l'heure, il y a des parallèles énormes avec Acte 10, donc même les applications. Simplement rappeler ce qu'on a dit dimanche dernier, de voir comme Dieu voit. Dieu ne fait pas de favoritisme. L'évangile est pour tous. Quelque part que Dieu nous apprenne à ne pas avoir des préjugés, à ne pas avoir nos œillères, nos filtres qui nous empêchent de voir l'œuvre de Dieu dans lequel nous devons nous inscrire. Ils ont voulu à un moment donné se dire « Non, ça doit être comme ça. » Et Dieu est intervenu. Non, c'est bien plus large. Voir comme Dieu voit. Mais quelque part, ce texte aussi nous encourage, et ce qu'on avait aussi vu avec Acte 10, mais voir comment Dieu agit. Comprendre comment Dieu agit. Nos principes, nos façons d'être, nos façons de vivre les choses, est-ce que c'est des filtres ? Est-ce que c'est parfois des filtres qui nous empêchent de voir l'action de Dieu ? De voir l'œuvre de Dieu dans la vie des autres, dans nos vies, dans la vie des autres autour de nous ? Est-ce que parfois c'est nos manières de voir les choses ? On est parfois comme ces hommes qui ont l'impression d'obéir à Dieu. Ça doit être comme ça, alors que ce n'était pas le cas. Parfois on est convaincu de nos traditions, de nos règles, de nos façons de faire, de nos formes. C'est comme ça, c'est biblique. C'est comme ça que ça plaît à Dieu. En sommes-nous sûrs ? Parfois on pense que ce qu'on croit, ce qu'on fait, la manière de le faire, parce que c'est Dieu qui les a ordonnés, ça doit être comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour notre épanouissement, c'est comme ça que ça doit se faire. Dans ma petite vie de disciple, ma vie de responsable aussi, j'ai vu déjà tellement de personnes s'emporter devant telle situation, devant telle décision, devant tel comportement, devant telle église, devant tel choix. Mais quelque part, qui sommes-nous pour dénoncer l'œuvre de Dieu ? Si on réfléchit, l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Et on est des instruments entre ses mains. On peut multiplier les exemples. On s'emporte parfois par l'absence de telle activité dans l'église. Ah, il faudrait ça. Alors que l'absence de lire ensemble la parole de Dieu, de prier ensemble, ne leur fait ni chaud ni froid. J'en ai entendu. Certains se déchaînent sur tel style de musique, alors même qu'ils ne s'inquiètent pas s'il est faible, ceux qui sont dans le besoin, s'ils nos aînés, si les plus jeunes auraient besoin de leur présence, de leur aide, de leur sourire, de leur grâce. Il n'y a pas de durée sur la prédication, il faut que ce soit 40 minutes, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de commandement. En revanche, se porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ, Galates 6, se trouve bien dans la Bible. Parfois, on entend que certains se plaignent de ces tenues vestimentaires. Ah, s'il était chrétien, il ne s'habillerait pas comme ça. Certains se plaignent de tel ministère. T'as vu comment il le fait, la manière dont il parle, la manière dont il voit les choses, la manière dont il... La manière dont un tel s'engage. On peut être critique sur la durée des cultes. Et quelque part, ces mêmes personnes sont parfois les mêmes personnes qui n'ont pas témoigné depuis quelques mois à quelqu'un. Des personnes qui n'ont même pas ouvert la Bible. J'en connais. Que nous puissions discerner ce que nous désirons, ce que nous pensons, de la situation. En fait, mais qu'est-ce que Dieu dit vraiment ? Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que, en fait, c'est moi qui me trompe ? Montre-moi. Non pas que nos désirs, nos projets, nos manières de faire soient mauvaises, mais est-ce qu'il passe avant de ce qui compte vraiment pour Dieu ? Est-ce qu'on le fait pour plaire aux hommes ? Est-ce qu'on le fait pour plaire à Dieu ? Est-ce que c'est nos traditions, notre culture ? Si maintenant je disais, c'est trop compliqué de prendre la scène ensemble, tous les dimanches on en devient trop nombreux, et on va le prendre régulièrement dans nos groupes de quartier, pour des raisons pratiques, on va s'encourager. Parce que là, ça ne va plus être possible de tout vivre ensemble. Comment on le prendrait ? Est-ce que telle façon... Des fois, on entend aussi « Ah, telle église, elle fait telle chose !» Mais est-ce que c'est l'église, cette église qui doit nous dicter ce qu'on doit vivre ou est-ce que c'est Dieu ? Ce que Dieu nous met sur le cœur. Mais quelque part, pour nous mettre des choses sur le cœur, il faut l'écouter, comme Pierre. Est-ce qu'on est centré sur nous, sur Dieu ? Est-ce qu'on a consulté celui qu'il fallait ? Est-ce qu'on s'est mis devant Dieu dans la prière, à l'écoute de sa voix, lorsque, voilà, il y a des décisions, des choix, des orientations à prendre ? On cherche tellement parfois à savoir plutôt ce que Dieu peut tolérer, ça Dieu est d'accord, ça Dieu il n'est pas d'accord, plutôt que de se dire mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment ? Ça s'appelait à Dieu. Est-ce que la parole de Dieu vient encore me percuter, ma manière de penser ? Est-ce qu'elle est encore en train de réaligner ? Pierre, ça fait longtemps qu'il chemine avec Jésus-Christ. Et il n'en a pas fini. Pierre, confronté à la parole de Jésus, va devoir sans cesse aligner, sans cesse corriger des choses qu'il pensait que c'était comme ça, que c'était biblique, comme Dieu l'appelait. Et en fait, non, c'est comme ça que Dieu appelle à les vivre. Est-ce qu'on a peut-être des vies avec le Seigneur depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans? Mais est-ce que Dieu nous raligne encore? Est-ce que Dieu nous montre encore des choses? Non, là, je suis à côté, là, j'ai. Quelque part, c'est ça. Hein. Pierre, il a interpellé de se dire qu'il avait une mauvaise façon de voir les choses. Et Dieu a dû le raligner. Et enfin, voir comment Dieu agit, voir l'œuvre du Seigneur encourage l'adoration. C'est ce qu'on a vu dans ce texte. La fin de ce texte, c'est la gloire de Dieu. Voir ce que le Seigneur fait. Quelque part, voir ce que le Seigneur fait dans la vie des uns et des autres, ça suscite l'adoration, la reconnaissance. De voir la manière dont Dieu conduit les situations, la manière dont Dieu intervient dans la vie des uns et des autres, ça doit conduire à l'adoration. Quand je regarde en arrière sur ma manière dont le Seigneur a conduit les choses pour que je comprenne l'Évangile, la manière dont les choses se sont articulées, la manière dont les personnes ont été placées sur ma route, waouh, je peux que rendre aujourd'hui gloire à Dieu. Combien Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit, par des personnes, a pu façonner certains détails pour que je le découvre, pour que je puisse saisir le salut. Est-ce que ça me réjouit encore de voir ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Mais pas que dans ma vie, dans la vie des autres. Quand je vois mon frère, quand je vois les uns et les autres, est-ce que je le vois comme œuvre de Dieu, comme créature de Dieu? Est-ce que je vois ce que Dieu a déjà fait avec lui, ou est-ce que je vois ce qui n'est pas aligné comme moi je le voudrais que ce soit aligné? Est-ce que je me réjouis de l'œuvre de la puissance du salut dans la vie des uns et des autres? Quelque part, de voir que le salut a touché cette personne. Moi, je suis encouragé avec Sébastien, on a l'occasion de partager ces dernières semaines régulièrement de ce que Dieu fait. Et on était sur la préparation baptême et on a dit, mais on a une bonne nouvelle. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Il y avait une mauvaise nouvelle avant. On était perdus sans Dieu. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle et ça devrait nous réjouir. Que quelque part, on a accès au salut, qu'on a été réconcilié avec Dieu, qu'on a cette joie de pouvoir lui parler, de pouvoir compter sur lui, qu'il est notre soutien, qu'il est celui qui nous parle, qui nous a laissé sa parole. Enfin, il y a tellement d'occasions de nous réjouir plutôt que de voir les choses peut-être qui sont peut-être pas tellement alignées encore chez les uns et les autres ou chez moi. Est-ce que je me réjouis de l'œuvre de Dieu? Alors on veut prier, et c'est notre prière, hein, comme nous le faisons beaucoup avec certains d'entre vous, que notre Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre notre intelligence, nous ouvre notre compréhension pour savoir ce qu'il convient quelque part de vivre ensemble dans les années à venir, que nous puissions voir sa gloire et non pas la nôtre. Quelque part qui nous ouvre jour après jour les yeux sur sa grâce, se dire qu'on se réjouit du salut. Je me réjouis du salut, je m'attends... De ce que Dieu est en train de faire, sur la beauté de son intervention, qui repose sur aucun de mes mérites, mais de l'action souveraine, aimante, de grâce de notre Dieu. Et quelque part, pour terminer, je me dis, quand je lis ce texte, je me dis, est-ce qu'on est prêt à être surpris par Dieu? Est-ce qu'on est prêt à être repris par Dieu? Parce qu'on a envie que... Et on voit comment ça a commencé clairement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est que grâce.